extrêmes. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
L'histoire de la présence chrétienne au Japon offre au cours des premiers siècles de son existence une dimension à deux visages, retraçant tantôt des événements les plus exaltants, témoignant d'une expansion rapide, consensuelle, aux effets bénéfiques, tantôt une série de revers, de désastres, commués en autant de tragédies, broyant inconsidérément des populations entières, comme les premiers missionnaires venus d'Occident. Et c'est un invité connaisseur de cette histoire chrétienne japonaise que nous avons aujourd'hui sur Orient Extrême. Bonjour Père Antoine.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir pour parler aujourd'hui de cette exposition qui ouvre au MEP cette semaine. Des samouraïs au manga, l'épopée chrétienne au Japon. Une exposition donc qui ouvre le 15 mars. L'entrée est libre de 10h à 18h au 128 rue du Bac. Père Antoine, vous êtes commissaire de cette exposition et nous parlerons de l'épopée chrétienne au Japon après notre revue d'actualité, car nous vous proposons, chers auditeurs, de faire chaque semaine un point sur l'actualité asiatique grâce au travail d'Église d'Asie que vous avez rencontré la semaine dernière, qui est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous commençons par le bilan du conflit interethnique dans l'état du Manipur en Inde, 219 morts et 8 milliards de roupies de pertes. Dans son discours à l'Assemblée législative de l'État du Manipur, le gouverneur avait dressé le bilan du conflit qui a éclaté début mai. Près de 10 000 plaintes avaient été déposées en lien avec les violences et des compensations avaient été versées aux familles des victimes. Monseigneur Lumon, archevêque émérite d'Imphal, capitale du Manipur, souligne que la situation reste difficile. L'État indien du Manipur est toujours affecté par les violences interethniques qui ont éclaté début mai 2023 dans le nord-est de l'Inde. On compte à ce jour au moins 219 personnes tuées et des pertes qui s'élèvent à près de 8 milliards de roupies indiennes, soit 90 millions d'euros pour le gouvernement local. Et je vous parle de cette route de Damas d'un communiste vietnamien appelé Okado, une route de Damas vers le catholicisme. C'est une belle histoire, vous allez voir. Le jeune Okado, 27 ans, compare sa conversion à celle de saint Paul. Durant 10 ans, il a cherché à faire arrêter les chrétiens de son village au Vietnam qu'il voyait comme une force réactionnaire contre le gouvernement communiste. Son père, un soldat et membre du parti communiste, lui disait que les forces religieuses comme le christianisme étaient une insulte contre les villageois indigènes et portaient atteinte aux causes révolutionnaires. Okado cite son père dans son témoignage « Il n'y a pas de Dieu dans le monde et les humains peuvent faire toute chose ». En 2022, son père a été diagnostiqué d'un cancer du foie et sa famille s'est retrouvée sans rien après avoir vendu leur bétail pour couvrir le traitement médical. Or, plusieurs catholiques de la région sont venus les voir afin de leur apporter un soutien psychologique et matériel jusqu'à la mort du père. Parmi ces volontaires se trouvaient les 5 personnes qui avaient été arrêtées à cause des accusations de O. Et je cite O. « Un jour, je me suis évanoui au bord de la route à cause de la faim. Un passant catholique m'a emmené à l'hôpital et a couvert mes frais médicaux. » O, qui dit avoir ainsi vécu un bouleversement du cœur, sera baptisé à Pâques cette année, et je le cite une dernière fois. « Une fois que vous sentez la présence divine dans votre cœur, vous ne craignez plus rien au monde. » En Birmanie maintenant, alors que la junte militaire subit les coups de la rébellion, le service militaire semble se transformer en conscription obligatoire. La société birmane, en particulier les jeunes, est préoccupée depuis que la junte au pouvoir a annoncé cette intention. Selon un de nos informateurs, l'absence d'informations précises génère beaucoup d'anxiété dans les familles ayant des fils et des filles en âge d'être enrôlés. Cette décision pourrait être un signe de faiblesse face aux évolutions récentes des conflits internes et confirmer une position précaire de la junte sur le champ de bataille. Au Japon, enfin, la crise démographique s'accentue. Le nombre de nouvelles naissances a diminué pour la 8e année consécutive, avec un nouveau record de plancher atteint en 2023. Les naissances ont chuté de 5,1% au Japon par rapport à 2022. Et le porte-parole du gouvernement a évoqué des mesures sans précédent contre ce déclin, dont des hausses de salaire et de meilleurs services de garde d'enfants pour les jeunes travailleurs. Les années à venir d'ici 2030 seront sans doute la dernière chance pour le Japon de renverser la tendance, alors que le nombre de jeunes japonais continue de diminuer. Et puis aux Philippines, des manifestations ont eu lieu contre la modification de la Constitution. Plusieurs milliers de personnes du mouvement d'opposition philippin ont manifesté dans plusieurs villes de l'archipel afin de protester contre les projets d'amendement de la Constitution du président Ferdinand Marcos Jr. Jr., c'est important, car les manifestants ont choisi la date symbolique du 25 février, en référence au 38e anniversaire du soulèvement pacifique de 1986, qui avait conduit à la chute du père du président actuel, l'ancien dictateur Ferdinand Marcos Sr. Et nous terminons en Chine avec l'agence chinoise des vols spatiaux habités qui a dévoilé les noms des nouveaux véhicules pour les futures missions d'exploration lunaire. Le nouveau vaisseau spatial habité a été baptisé Mengshu, vaisseau de rêve en référence au rêve spatial du peuple chinois. Et l'atterrisseur lunaire a été baptisé Lan Yue Embrasser la Lune, une expression apparaissant dans un poème écrit par Mao Zedong. La CNSA, l'Agence spatiale nationale chinoise, a souligné son intention de réussir une mission habitée sur la Lune d'ici 2030. Et nous retrouvons le père Antoine de Bonjour, missionnaire MEP et commissaire de l'exposition Des samouraïs au manga, l'épopée chrétienne au Japon, qui ouvre au MEP cette semaine le 15 mars. L'entrée est libre de 10h à 18h au 128 rue du Bac. Alors mon père, est-ce que vous accepteriez de présenter un peu le commissariat de cette exposition? Et puis vous pouvez en profiter bien sûr pour vous présenter vous-même.
Oui, bien merci de nous recevoir ici sur votre antenne. Alors cette exposition, qui commence donc le 15 mars prochain, est en 5 parties et qui recouvre en gros la période fondation de l'Église du Japon par Saint François Xavier en 1547. Bon, c'est une date 1549, une date traditionnellement retenue, jusqu'à nos jours. Donc c'est une très longue période que nous prenons. Alors elle a été divisée donc en 5 parties. La première et la deuxième partie est prise en charge par M. Jacques-Charles Gaffiot, qui est un historien d'art, qui est aussi passionné par l'Asie, qui sera donc le commissaire de ces deux premières parties. Donc fondation, le siècle chrétien, tel qu'on appelle cette première partie, c'est Saint François Xavier, puis par la suite les jésuites, qui vont vraiment fonder l'Église au Japon, développer une culture chrétienne même, avec de l'art. Et cela va se refléter dans l'exposition avec des objets tout à fait remarquables de collectionneurs et d'amis ou qui viennent aussi d'un musée, je crois, du Portugal, qui vont montrer un petit peu ce qui se faisait à cette époque grâce au développement et au début de l'Église au Japon. La deuxième partie sera celle plutôt de la clandestinité, c'est-à-dire qu'après un développement rapide, l'Église est prise par des persécutions vont devenir très dures, puisqu'il y aura la proscription du christianisme à partir de 1614. Bon. Et là, pendant 250 ans, fermeture complète de l'Église, l'exposition, justement, rappellera quand même qu'il y a eu des quelques tentatives pendant cette période pour garder quelques liens avec l'Église universelle et les chrétiens encore présents. Les missionnaires n'ont pas été expulsés immédiatement, mais petit à petit, et définitivement à partir de 1637, là c'était vraiment une interdiction très dure avec des martyrs nombreux parmi donc les quelques prêtres qui restaient encore au Japon et surtout parmi les chrétiens. Troisième partie, là on sort de la clandestinité, c'est-à-dire que 250 ans ont passé, nous arrivons en 1865, les missionnaires qui sont là, des missions étrangères, cette fois-ci depuis 1844 dans les îles Ryukyu, aujourd'hui l'île de Okinawa, remontent progressivement vers le nord et s'installent dans des ports autorisés uniquement pour des échanges économiques avec l'ouverture donc du Japon sur le monde extérieur. Alors c'est dans ces ports, il y a des églises, enfin il y a un début de christianisme mais qui est réservé normalement aux étrangers. Les missionnaires présents ont la surprise de découvrir le 17 mars 1865 des chrétiens qui ont traversé les 250 ans de proscription. Et donc c'est une sorte de renaissance de l'Église. Mais celle-ci ne s'est pas fait sans difficulté, puisqu'il y a eu de nouveau une persécution contre ces chrétiens sortis de la clandestinité entre 1868 et 1873. Quatrième partie, c'est la pression, si je puis dire, sur les chrétiens se relâche enfin. Bon, il y a évidemment l'influence des communautés étrangères et puis une volonté, je crois, aussi du Japon de s'ouvrir au monde, et y compris au monde religieux, enfin d'autres religions, habitées par d'autres religions. Et ça donne une certaine liberté aux missionnaires, une liberté encore très sous surveillance, et qui va aboutir en 1889 à l'inscription dans la première constitution du Japon d'une liberté religieuse. Alors une liberté religieuse qu'on dira sous surveillance, parce que on ne doit pas, disons, perturber la paix du pays. Et comme toujours, ce genre de limites sont assez difficiles à définir. Et donc, il y a une certaine prudence dans l'Église, mais quand même aussi une joie et des missionnaires et des chrétiens sortis de la clandestinité à pouvoir vivre enfin comme chrétiens. Et puis, une Église s'est découverte, s'est construite progressivement, suivant les trois grands piliers de la vie de l'Église, le pilier de la transmission de la foi, donc transmettre la foi, donc traduction de la Bible, des catéchèses, des prières, des chants, bon, tout ce qu'il fallait pour vivre aussi la foi. Ensuite, la célébration, donc là on retrouve bien sûr les chants, mais aussi les sacrements. Et enfin, le troisième pilier inséparable des deux autres, la charité, donc le service des plus pauvres. Et c'est là où l'Église s'est beaucoup investie à cette époque-là, auprès en particulier des lépreux, des Bulakumin, qui est une sorte de groupe un peu discriminé au Japon, et puis des plus pauvres, et bien sûr aussi de tous ces chrétiens qui, sortis de la clandestinité, se sont retrouvés en fait en difficulté économique et qu'il a fallu accompagner, ouvrir, former pour qu'ils s'intègrent vraiment dans la vie sociale du Japon de cette époque. Enfin, dernière partie que moi je recouvre, qui va de 1945 à aujourd'hui, qui est donc l'Église actuelle, je dirais une vision plus classique que nous abordons dans l'exposition de plusieurs par différents angles. Bon, il y a la transmission de la foi toujours, il y a toujours ce pilier de la charité, parce que ça me paraît extrêmement important de montrer comment aujourd'hui l'Église est présente auprès des plus petits dans la société japonaise, et puis aussi cette adaptation que fait par petites touches le Japon à la culture japonaise. Voilà. Donc, dans les commissaires, donc j'ai cité Charles Gaffiot, il y a aussi donc Madame Sylvie Morishita, qui est donc une Française mariée à un Japonais, qui est docteur en théologie catholique de l'université de Strasbourg, et qui elle s'est spécialisée en particulier sur la période de la fin de la clandestinité, de la sortie des chrétiens de la clandestinité jusqu'à la fin de la persécution de 1873. Elle prépare actuellement d'ailleurs un livre pour présenter des lettres de cette époque, des missionnaires parlant justement de cette rencontre, et tout à fait, non pas du troisième type, mais vraiment de la foi et des chrétiens de cette époque. Et je pense que ça, c'est un regard qui nous permet aussi, nous, de nous poser la question de comment accueillons-nous la foi des autres qui ont été pendant longtemps, non pas loin de l'Église, mais absents, enfin, qui avaient quasiment disparu des radars et qui maintenant, aujourd'hui, expriment leur foi telle qu'ils l'ont reçue des ancêtres et qui doivent s'intégrer, je dirais, dans la vie de l'Église qui, elle, ben, pendant 250 ans, a continué à tourner dans le monde. Voilà. Et puis, donc, moi-même, je suis un prêtre des missions étrangères qui a été 30 ans, en gros, au Japon, entre 1992 et 2022, et qui, actuellement, travaille à la Maison des missions étrangères de Paris, rue du Bac.
Merci, mon père, pour cette présentation exhaustive. Je vous propose une petite pause musicale d'une minute, et nous revenons tout de suite pour parler un peu plus du contenu de l'exposition. Thank you.
Et nous retrouvons le père Antoine de Montjour, missionnaire MEP et commissaire de l'exposition « Des samouraïs au manga, l'épopée chrétienne au Japon » qui ouvre au MEP cette semaine, le 15 mars. L'entrée est libre de 10h à 18h au 128 rue du Bac. L'exposition, donc, père Antoine, a été divisée en 5 parties. Évidemment, vous avez dû faire un choix car on ne peut pas résumer 470 ans d'histoire si facilement et chaque commissaire est donc responsable d'une partie. Ces parties respectent une chronologie qui commence par l'arrivée de saint François-Xavier. Père Antoine de Montjour, dans quel contexte se passe cette arrivée ?
Nous sommes donc en 1549. C'est l'époque où le Portugal, et puis l'Espagne aussi d'ailleurs, se visitent, découvrent l'Asie et sont conduits à avoir des relations commerciales avec le Japon. Et donc c'est dans ce cadre de ces relations commerciales qui se développent en Asie, dans l'empire du Portugal et de l'Espagne, que saint François-Xavier, qui était alors à Goa en Inde, va avec un interprète japonais, quelqu'un qui s'était réfugié justement en Inde, qui a reçu là-bas d'ailleurs le baptême, pour aller porter la bonne nouvelle au Japon, où il sera plutôt bien accueilli.
Une situation qui se dégrade plutôt à la fin du XVIe siècle, plutôt cette deuxième partie, où le Japon shogunal est férocement opposé à l'accueil du christianisme, qui va alors vivre dans la clandestinité. Vous nous en parliez tout à l'heure dans la présentation. C'est ce mot qui caractérise la seconde partie de l'exposition. Cela rappelle aussi les images du livre de Shusaku Endo, Silence. Comment l'Église japonaise vit-elle cette clandestinité ?
Alors, la vie clandestinement, si je puis dire, puisque persécuté très durement, vraiment, il y a une volonté de éradiquer cette religion qu'on estimait comme dangereuse parce que finalement mélangée avec une influence étrangère que l'on craignait un peu parce que évidemment les Japonais étaient renseignés sur ce qui se passait dans le reste du monde, donc le colonialisme entre guillemets qui est un mot un peu exagéré à cette époque-là, mais enfin qui déjà commençait à se mettre en place avec des comptoirs de différents pays, et avec de manière assez forcée. Donc ils craignaient cela, tout simplement, et ils voyaient que c'était lié, enfin dans leur tête, ça paraissait lié à la présence chrétienne, et qu'en gros, les chrétiens étaient un peu des sous-marins qui allaient préparer le terrain pour une occupation, une invasion, ou une influence plus forte et plus directe des pays qui étaient derrière ces occidentaux missionnaires. D'où suppression des missionnaires et suppression de toute influence chrétienne en essayant d'éradiquer, si je puis oser dire, tout chrétien. Alors, les chrétiens, eux, ont vécu, je dirais, ont gardé la foi de manière extraordinaire parce qu'ils étaient dans l'espérance qu'un jour, les missionnaires reviendraient et qu'ils pourraient de nouveau vivre ouvertement
sans
leur foi.
Sans religieux.
Alors là, il n'y avait plus de religieux, surtout à partir de 1637, il n'y avait plus personne. Enfin, il y a eu une ou deux tentatives par la suite, mais ça s'est arrêté là. Donc, ils vivaient alors, dans une situation un peu difficile, puisqu'il y avait un contrôle très serré des autorités, pas seulement d'ailleurs vis-à-vis des chrétiens, mais vis-à-vis aussi de certaines écoles bouddhiques un petit peu, je dirais, hors des grandes écoles qui, elles, étaient bien contrôlées par, enfin, sous l'autorité du gouvernement. Et donc, on avait un exercice régulier dans les villes où il y avait, enfin, les villages où il y avait autrefois des chrétiens, enfin, où le gouvernement estimait qu'il y avait autrefois des chrétiens, ce qu'on appelait le fumié. C'est une image sur laquelle on devait marcher. Donc, tout le village était réuni et devait, devant l'officier de police, marcher sur l'image sainte pour manifester son reniement de la foi chrétienne. Bon, parfois, dans certains endroits, même si les autorités savaient qu'il y avait des chrétiens, ils ne posaient pas plus de questions, mais si le geste était formellement montré, publiquement fait, bon, ils passaient sur ce qui pouvait se passer éventuellement dans les familles ou dans les maisons. Et donc, c'est ainsi que dans les familles, la transmission de la foi avec donc le baptême, il y avait des baptiseurs, des groupes de baptiseurs, et avec des prières, le credo en particulier, donc le Je crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue Marie, un certain nombre d'extraits, si je puis dire, des évangiles, des prières qu'ils avaient apprises et qui ont été comme ça transmises pendant 250 ans.
À la fin du 19e siècle, Père Antoine, les MEP sont arrivés au Japon. La pression étrangère et la volonté de modernisation du Japon conduisent à l'adoption d'une constitution où est mentionnée une liberté religieuse. Est-ce que l'Église du Japon peut enfin respirer à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette liberté religieuse? Est-elle conditionnelle?
Alors, donc, dans cette période fin 19e, si on part bien de 1889, c'est-à-dire la première constitution du Japon, qui inscrit dans la constitution la liberté religieuse, mais de manière encadrée, donc elle ne devait pas troubler l'ordre public, je crois que quand même l'Église, là, s'est vraiment épanouie, mais de manière prudente. D'abord parce qu'elle était constituée d'étrangers, et que de beaucoup d'étrangers, enfin missionnaires, hein, ça a pris du temps de former un clergé japonais local. Le premier évêque japonais a été sacré évêque, ou ordonné évêque, on dirait aujourd'hui, seulement en 1927.
Et le militarisme japonais de la première moitié du XXe siècle, est-ce que ce militarisme conduit à une nouvelle persécution?
Alors, ce n'est pas une persécution ouverte, mais une grande méfiance, disons, des autorités militaires et nationalistes contre cette organisation catholique qui est donc pas seulement sur tout le pays, mais qui est reliée à l'étranger, avec cette présence d'une hiérarchie essentiellement française à l'époque, mais avec déjà aussi quelques autres nationalités. Donc, Rome a incité, disons, dès les années 1930-35, à ce que tout l'épiscopat japonais se japonise. C'est-à-dire que les étrangers évêques donnent leur démission ou se retirent et laissent la place à des autorités japonaises, nommées bien sûr par Rome, ce qui parfois étonnait un petit peu le Japon, en disant « mais nous, on peut très bien les nommer aussi, les évêques, bon. » Et puis aussi dans l'organisation pour les écoles, pour les représentants de différentes institutions, là aussi, les autorités ont tenu à ce que ça soit fait, ont tenu à ce que tout soit pris en main par des Japonais. Alors, l'Église a joué le jeu, si je puis dire, peut-être de manière un peu forcée, et puis parce qu'il voulait garder le maximum de liberté religieuse. Et je crois que les chrétiens, eux, ont gardé, tout en se rendant compte qu'il fallait s'adapter à la situation, ils ont gardé une grande estime pour les missionnaires et les étrangers qui étaient présents. Hein, c'est toutes les lettres et autres en témoignent. Donc l'Église s'est adaptée à cette situation un peu tendue, mais ce ne fut pas une persécution. Il y a eu quelques cas, bien sûr, de persécution par la police militaire de l'époque, mais je dirais que ce n'était pas systématique.
Père Antoine de Montjour, je fais un saut dans le temps. La constitution de 1946, après la capitulation, consacre à nouveau la liberté religieuse pour l'Église catholique du Japon. Est-ce une phase d'expansion qui commence? Et comment cette liberté religieuse est-elle vue aujourd'hui dans les milieux traditionnalistes japonais?
Alors oui, la liberté fut totale à partir de 1946, mais il fallait tout reconstruire, la guerre ayant rasé physiquement, si je puis dire, tous les bâtiments pratiquement de l'Église avec les villes. Hein. Là, c'est un redémarrage. Il y avait des besoins énormes dans tous les domaines. Donc l'Église aussi s'est beaucoup investie dans l'éducation, dans la formation, dans les hôpitaux, la mise en place finalement d'une participation au développement du Japon. Et je crois que ça a été bien reçu par les gens. Alors ensuite, une fois que l'économie était bien en route, l'Église est devenue moins visible ou moins nécessaire, si je puis dire, entre guillemets, dans la société. Donc l'Église s'est plus consacrée à son rôle plus traditionnel auprès des plus petits. Donc toujours ce soin et cette attention à ceux qui sont laissés au bord de la route, parce que c'est là où le Christ nous envoie. Hein. Et le Christ nous envoie au service des plus pauvres. Annoncer l'évangile à tous, mais être attentif aux plus petits.
C'est un beau mot de conclusion, Père Antoine. Merci d'être venu sur Radio Notre-Dame pour nous parler de l'épopée chrétienne au Japon. Je rappelle les informations de cette exposition qui s'annonce très riche et très complète. Des samouraïs au manga, l'épopée chrétienne au Japon, une exposition qui ouvre au MEP cette semaine le 15 mars. L'entrée est libre de 10h à 18h au 128 rue du Bac et l'exposition durera jusqu'à cet été. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour pour en apprendre plus sur l'histoire du Japon et du christianisme. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité à l'émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.